Il y a le moment où tu fais totalement abstraction de ce qui se passe. C'est-à-dire que tu fais abstraction de la manière dont tu tapes avec ton clavier, tu réfléchis pas à ça. Il y a des gens qui vont te parler, tu vas pas faire gaffe à ça, et ouais, c'est ce qu'on appelle la zone. Ces moments-là sont assez jouissifs parce que tu vois pas le temps passer, tu es vraiment concentré, et en fait, tu fais vraiment un peu, c'est un peu cliché, mais tu fais qu'un avec la machine, quoi.
Bonjour et bienvenue à tous dans un nouvel épisode d'Occupation. Suite de notre balade nantaise aujourd'hui avec un détour plein de bruit de clavier, on est parti à la rencontre de Loïc. Son job, c'est développeur web. Il travaille pour le site Gens de Confiance et il m'a accueilli dans leur bureau pour parler code, hacker et conditions de travail. Comment travaille un développeur, combien il gagne et est-ce qu'il peut hacker le Pentagone? À vos claviers, ça va coder. On va commencer très simple. Comment tu expliques ton métier à tes parents et à tous ceux qui n'ont aucune idée de ce que c'est qu'un développeur ?
Je dis simplement que je fabrique des sites internet. Donc j'écris le code. Le site internet derrière, c'est plein de code. Et donc moi, j'écris le code.
Donc c'est quoi du code ?
Du code, c'est du texte qui est interprétable par des machines, d'autres ordinateurs, et qui vont donner des instructions à ces machines-là sur qu'est-ce qu'il faut afficher.
Donc concrètement, ce ne sont pas que des 0 et des 1, par exemple.
Non, on n'écrit pas. Alors,
c'est pas Matrix.
Moi, j'écris pas des 0 et des 1. Par contre, derrière, c'est interprété par des machines qui vont décoder ce que j'écris pour en faire des 0 et des 1. Qui, derrière, eux-mêmes vont donner des instructions pour afficher après quasiment un site internet. Techniquement, c'est une image.
Mais dans ce code-là, il y a des mots en fait qui sont, alors, pas français, souvent anglais. Ouais. Mais en fait, tu écris quasiment des fois.
Des fois, ça va être des mots clés. Il y avait des mots genre if ou for ou while. La plupart, et aussi, il y a beaucoup de choses, c'est des variables qu'on écrit nous. Et donc là, ouais, il y a beaucoup de mots et la sémantique est super importante parce que un code avec des variables qui sont bien nommées est un code qui est beaucoup plus facile à reprendre plus tard. Alors que quand les variables sont mal nommées, à un moment donné, tu vas arriver sur le code, tu devras changer quelque chose parce qu'il y a un bug ou parce que tu veux rajouter une fonctionnalité. Et là, tu vas rien comprendre. Donc ouais, il y a beaucoup de mots anglais dans le code.
Déjà, ça s'éclaircit quand tu dis ça. If, c'est si, while, c'est pendant. Ouais. Et donc, en fait, tu donnes des instructions qui peuvent être très claires au final quand on les lit.
Oui, la complexité, elle n'est jamais dans le code en soi. Vraiment, la base du code et de comprendre la base du langage, ça ne prend jamais trop longtemps à apprendre. Parce que la complexité, c'est comment bien les utiliser et comment tu articules après des gros blocs de code ensemble.
Donc, tu donnes des instructions avec ces langages que tu apprends. J'allais te demander si c'est comme apprendre une langue étrangère, mais comme il y a de l'anglais dedans, d'ailleurs, ça ressemble un peu à ça.
Un petit peu, c'est pas la même mécanique, parce que la grammaire, elle est beaucoup plus mécanique. Il y a moins d'exceptions, t'as pas les verbes irréguliers dans le code, par exemple. Mais,
donc, c'est plus simple de coder que d'apprendre le français ou l'allemand.
Je pense que c'est différent. Ça fait pas appel du tout aux mêmes capacités intellectuelles, en fait. Mais il y a quand même une notion, ouais, à un moment donné, après, d'être à l'aise. T'as quand même ce sentiment d'être, de parler couramment, enfin, comme de coder couramment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vas écrire du code. Au début, tu vas un peu réfléchir à comment faire un truc que tu veux, quelque chose que tu veux faire. Et puis, au bout d'un certain temps, avec de l'expérience, tu vas plus avoir besoin de réfléchir. Tu sais exactement qu'il faut le faire comme ça.
Tu parles de langage. Ouais. Tu t'es, toi, spécialisé dans un langage en particulier?
Ouais. En fait, moi, je me spécialise pas dans un langage, je me spécialise dans un domaine. De fait, après, dans ce domaine-là, il y a un certain nombre de langages qu'il faut comprendre. Et donc, j'apprends cela pour que dans mon domaine, je puisse être efficace.
Quel langage, en l'occurrence?
Alors, moi, principalement, c'est TypeScript, HTML, CSS.
La différence entre TypeScript et HTML, par exemple?
C'est que ça ne fait pas la même chose. L'HTML, ça va vraiment être un langage pour hiérarchiser de l'information. C'est vraiment, tu as une information textuelle. Et tu vas dire ça c'est le grand titre, tu as un article de blog par exemple, c'est là où tu vas mettre tout le texte du blog, et donc là tu vas dire ça va être le corps de mon texte, là tu vas avoir le chapeau, et en fait c'est un langage qui va te permettre de sémantiquement bien classer les différents niveaux d'information et aussi de faire des liens entre d'autres pages. C'est un peu la colonne vertébrale, la structure d'une page internet.
Dans un langage comme HTML, comme TypeScript, tu utilises parfois les mêmes éléments. Alors, les variables, les if, les when, ça revient dans différents langages?
Alors, HTML, pas trop, c'est un langage un peu particulier. Mais oui, il y a beaucoup de concepts qui vont être communs à plein de langages. TypeScript, par exemple, il y a pas mal de concepts qui vont revenir dans d'autres langages comme le PHP, le Java, le Python. Il y a des choses qui sont très basiques et qui vont être communes à plein de langages. Et après, il y a quelques spécificités qui sont liées parce que chaque langage a une raison d'être et et qui sont là pour faire un truc particulier, quoi.
Les fiches métiers développeurs sont affreusement vagues. Je suis allé voir sur les trucs type Onicep, etc. C'est affreusement vague. Est-ce qu'un développeur qui bosse sur WordPress ou un site internet et un développeur qui bosse sur des applis, par exemple, font le même métier?
Alors, oui et non. C'est-à-dire que un bon développeur devrait être capable, avec un temps d'adaptation, de passer de l'un à l'autre. Après, ce qui est important, c'est de se poser la question du produit qui est derrière. Quelqu'un qui fait du WordPress, il fait un site web. Quelqu'un qui fait une application iOS, il est là pour téléphone. Donc, le produit en soi est un petit peu différent. Mais la logique de faire du code pour afficher quelque chose ou pour côté serveur, logiquement, elle est relativement similaire. Il y a pas mal de différences qui font que les gens vont avoir tendance des fois un peu à se classer ou à avoir les différences qu'il y a entre-temps. Mais pour le grand public, c'est quasiment la même chose. Par contre, on va quand même avoir beaucoup de spécialisations. Et c'est vrai que les métiers de dev et d'ingénieur dans tout ce qui est logiciel, il y a une tendance où, il y a 20 ans, t'avais pas besoin de beaucoup de compétences pour faire plein de choses. Et en fait, on est tendance à, plus le temps avance, plus ça devient complexe de faire le moindre petit truc. Et donc, les gens vont avoir tendance à plus se spécifier, à développer des spécialités. Parce que les domaines deviennent de plus en plus complexes et de plus en plus gros.
Tu choisis à quel moment ta spécialité? Parce que dans ce que tu dis là, est-ce que tu parlais pour le grand public, mais un gamin qui sort d'une école, qui veut maintenant être dev, il doit se spécialiser très vite, ou alors il peut être embauché un peu n'importe où et se spécialiser au fil de l'eau, en fait?
Non, il peut changer. Ouais, il y a un peu de tout. Moi, je sais par exemple que j'ai tout de suite été attiré par une partie qui s'appelle le front-end et qui est la partie plus visuelle. C'est tout ce qui se passe dans le navigateur. Alors, au début, c'était la partie très visuelle qui m'intéressait parce que ce qui m'intéressait, c'était faire des interfaces. Mais j'aurais très bien pu tout au long de ma carrière décider à un moment donné de me réorienter vers d'autres spécialités du code. Moi, je n'ai pas décidé de le faire, mais en tout cas, il y en a plein qui vont soit à la sortie d'école choisir une spécialité et changer plus tard ou pas changer comme moi, et d'autres qui vont un peu papillonner, ou alors il y en a même d'autres qu'on appelle des full stack, qui eux vont avoir une tendance à être un peu plus globale, c'est-à-dire qu'ils vont être moins spécialistes, mais ils vont être capables de faire plus de trucs différents.
Tu as une double casquette maintenant, manager et développeur. Tu fais quoi d'une journée type? Tu arrives au boulot, qu'est-ce qui se passe?
Ouais, alors la première chose, comme beaucoup de métiers, je regarde mes mails. Je la garde assez peu souvent, mais moins une fois par jour. Et après, la deuxième chose que je fais, et que je fais assez souvent, ça va me prendre quelque chose comme une heure et demie par jour, ça va être de regarder le code des autres. Où en fait, tous les développeurs, quand ils vont vouloir mettre en ligne quelque chose, avant de pouvoir le mettre en ligne, ils vont le soumettre à la relecture de pairs qui sont dans l'équipe. Et c'est un moment qui est hyper important, qui est hyper crucial, parce qu'on fait appel vachement à l'ego. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui a fait son travail et qui pense l'avoir bien fait et qui le met à la soumission des autres. Et là, les autres peuvent potentiellement... Ça arrive assez peu souvent parce qu'on est courtois et qu'en plus, je travaille avec des gens qui sont plutôt doués. Mais ça peut arriver qu'à un moment donné, on dise de manière polie, t'as fait de la merde. Et des fois, c'est un peu chaud. Donc voilà. Et c'est aussi important parce que c'est un passage obligé. C'est-à-dire que si quelque chose est urgent et doit être mis urgemment en ligne, il faut quand même que ce soit relu avant. Donc c'est important de le faire tout de suite. Et après, ce qui se passe, c'est que soit j'ai des réunions, beaucoup de réunions, où le but là, c'est de voir avec les différentes équipes comment on peut être le plus efficace ensemble, régler les problèmes ensemble. Voilà. Et puis sinon, ça va être prendre une tâche à faire dans les tâches qu'on doit faire et puis coder. C'est du code qui a été fait par d'autres développeurs.
Okay.
Et en fait, avant qu'on le mette en production, encore en ligne, et que les gens le voient, ça passe par une phase de validation. Et donc, les autres devs de la même équipe ou de la même compétence vont regarder le code et faire des commentaires, et après, si ça marche, la plupart du temps c'est bon, on va dire je valide, c'est bon, tu peux le déployer.
Donc là, tu as une sorte de boîte mail où tu reçois les notifs de ce qui est prêt à vérifier.
Voilà, c'est ça, ouais. Ouais, donc là, on voit que celle-là, par exemple, elle est à review, comme on dit. Et donc, ce qui se passe, c'est que là, si je regarde, celle-là, je l'ai déjà review. En fait, on voit toutes les lignes qui sont en rouge, c'est des lignes de code qui ont été supprimées, et toutes les lignes qui sont en vert, c'est des lignes de code qui ont été rajoutées.
Et alors, ça veut dire quoi concrètement? d'avoir retiré margin right 4 pixels, last child, point, virgule, point parenthèse, etc., note last child, etc., et d'avoir mis margin right. Qu'est-ce qu'il a fait en fait techniquement ?
En fait, il a juste changé la manière dont on espace de boutons.
Ok.
C'est tout. Mais c'est juste que du coup, il fait plus ou moins la même chose, mais il le fait d'une manière qui est mieux, tout simplement. Avant, il y avait un petit bug, il le met en commentaire juste en dessous. Et ce qu'il fait, c'est qu'il trouve une autre manière de faire la même chose qu'avant, c'est-à-dire gérer l'espacement qu'il y a entre boutons qui sont l'un à côté de l'autre et qui ont 4 pixels d'écart entre les deux.
Donc c'est gérer plein de petits problèmes les uns après les autres.
Ouais, c'est ça. C'est plein de petits trucs qu'on assemble et ça fait des plus gros trucs qu'on assemble et ça fait un site internet.
Un site web sur lequel tu bosses,
ouais.
Pour le grand public, il est en ligne, il est là. Qu'est-ce qui fait qu'il a besoin de dev au quotidien, en fait ? C'est aussi ça la question. C'est pourquoi tous les jours, vous travaillez sur un site quand, vu de l'extérieur, on se dit ils ont créé leur site, ils l'ont mis en ligne. Bon, ça pourrait être fini, quoi.
Parce qu'il y a toujours plein de choses à faire. La première, c'est qu'il y a toujours des bugs. Un site qui n'a pas de bugs n'existe pas. C'est impossible. C'est devenu tellement complexe. Il y a tellement de cas d'usage. Et des fois, juste un cas d'usage très spécifique, ce qu'on appelle un « edge case », généralement. Donc quelqu'un qui habite à tel endroit de la France et qui a fait tel parcours utilisateur et qui a fait cet enchaînement de pages qui fait que là ça bug. Déjà ça c'est le premier truc qu'on répare, c'est des bugs. C'est pas 100% de notre quotidien, mais c'est quand même maintenir ce qui existe déjà, c'est important. Et puis il y a toujours des nouvelles fonctionnalités à rajouter. Nous on a un site de petites annonces, donc en fait il y a déjà 30 plein de types différents de produits qui sont vendus par les membres. Et donc, il va y avoir des nouvelles fonctionnalités pour... là, on a refait, par exemple, la manière dont on poste une annonce. Parce que on s'est rendu compte que la manière dont on faisait avant n'était pas très bonne. D'un point de vue, l'expérience utilisateur n'était pas bonne. Le code n'était pas bon et donc on ne pouvait pas faire évoluer. Et donc, on a tout repris, on a tout refait à zéro. Et en fait, soit on refait des trucs qui existent déjà, mais qui sont un peu dépassés, soit pour les utilisateurs, soit pour la technique. Soit il y a des nouvelles fonctionnalités qu'on veut rajouter parce que il y a des gens qui sont au management et qui veulent... trouver une autre manière de faire de l'argent ou proposer un nouveau produit. Et donc, du coup, on implémente les trucs.
Ça veut dire que votre quotidien, c'est bug plus développement futur dans l'ombre, en fait.
Ouais, généralement, on divise ça en run et build. Donc, ce qu'on appelle le run, ça va être la maintenance de ce qui existe déjà. Donc, soit des bugs, soit des toutes petites améliorations sur les choses qui existent déjà. Et le build, ça va être des nouveaux projets. Où là, par exemple, c'est des choses qui sont un peu plus cachées des gens. Et qu'à un moment donné, on va sortir et ça sera prêt. Et des fois, c'est même plus compliqué que ça. C'est que des fois, il y a une partie des gens qui le voient et une autre partie qui ne le voient pas. Et après, on va tester qu'est-ce qui performe le mieux entre la nouvelle version et l'ancienne. Et on va pouvoir faire des ajustements.
Sur un plan plus personnel, est-ce qu'on peut s'amuser en faisant du code ?
Oui. Ouais, vraiment. Il y a toujours des trucs chiants, évidemment. Des fois, tu vas devoir... changer du code sur des vieilles bases de code qui datent d'il y a 3-4 ans et qui sont plus du tout à jour et c'est pénible parce que tu comprends pas. T'as un gros travail de recherche et c'est compliqué. Mais un des trucs qui est marrant, déjà, le debug peut être rigolo, débugger quelque chose, parce que des fois, c'est un peu comme une enquête. C'est-à-dire que tu vas avoir... on a beaucoup d'outils automatiques qui vont détecter les bugs pour nous et c'est même pas les membres qui vont nous dire que là, il y a un bug. On va avoir quelque chose qui va nous dire il y a eu un bug, on a un certain nombre d'informations, c'est comme des indices. Puis là on va commencer à analyser les indices, se balader dans le code, essayer de comprendre. Donc il y a un petit jeu de piste qui peut être sympa, qui est assez ludique. Et puis d'une manière générale, il y a quelque chose qui est assez satisfaisant, c'est quand t'écris du code, t'écris jamais tout un projet d'un coup et tu vas plutôt écrire des petits rouages petit à petit. Mais par contre, quand à la fin d'un dev, tu te retrouves à voir que tous les rouages s'embriquent les uns dans les autres et que la mécanique elle tourne et qu'elle est agréable, c'est assez jouissif.
Est-ce qu'il y a du code caché dans tous les sites ? Mais quand je dis caché, c'est avec des blagues de développeurs, des trucs comme ça.
Je ne sais pas si dans tous les sites. Moi, j'ai déjà eu des anecdotes où, dans un précédent taf, je bossais dans une agence. Donc, en fait, on ne bossait pas directement pour les gens qui utilisaient le site, mais des gens qui faisaient la commande pour nous. Et il y a déjà eu des devs qui insultaient dans les commentaires. Donc, on n'est pas censé le voir, mais c'est écrit dans le code, qui insultaient le client.
Ah oui.
Sauf qu'à un moment donné, le commentaire n'était plus un commentaire, donc ça se voyait.
Mais parce qu'il y a des blagues de développeurs, tu vois, comment vous vous amusez au quotidien sur ça ? Je sais pas, je prends un exemple. chez les journalistes, des fois, on va s'amuser à donner des défis de caler un mot dans un flash ou dans un truc ou dans un reportage. Toi, je ne sais pas, qu'est-ce que vous faites au quotidien pour vous éclater? Ou alors, c'est vraiment du code comme ça. Tu prends du plaisir vraiment purement à coder, quoi.
Ouais, bah,
en fait, c'est le plaisir de la construction, peut-être.
Ouais, c'est ça. Moi, j'ai souvent comparé le code à soit du Lego, où vraiment, c'est des briques que tu assembles, soit un peu un horloger. C'est vraiment, tu vois, tu as le plaisir de la minutie, d'avoir la belle mécanique et d'avoir un truc qui est bien conçu. Et d'ailleurs, tu peux aussi avoir le plaisir de regarder le code de quelqu'un d'autre qui est bien conçu, quoi. Tu vas reconnaître qu'un site, à un moment donné, il est vraiment bien fait et que ça marche très bien et que c'est impressionnant, quoi.
Le cliché, c'est bloc-notes, enfin, fichier bloc-notes, vous codez, tac, tac, tac. En vrai, quand tu codes un site très important, tu crées des formules de zéro ou tu appliques des formules ou tu reprends des codes qui existent déjà. Comment ça se compose, en fait, un site?
Tu commences rarement de zéro, sauf si c'est des challenges que tu veux te donner, mais dans un cadre professionnel, tu n'as pas le temps. Généralement, tu vas utiliser beaucoup de code qui a déjà été fait par d'autres personnes. On appelle ça des dépendances, et en fait, c'est des choses qui sont gratuites la plupart du temps, des fois ça arrive, c'est payant, qui a été fait par d'autres personnes, soit des entreprises qui ont un intérêt quelconque de le faire, soit par des particuliers qui, juste par pure philanthropie, tu vois, vont partager du code qu'ils ont fait. Ils ont dit, moi, j'ai besoin de faire ça, peut-être que vous en allez avoir besoin. Et donc, tu vas beaucoup utiliser cette base pour coder ce que tu dois faire. Et après, ton job, en fait, ça va être d'assembler tout ça, de réutiliser des outils pour pouvoir implémenter ce qui est spécifique. Donc, bah, en l'occurrence, pour moi, ça va être la partie visuelle et puis bah, tout ce qu'on appelle la logique métier. Donc, ça va être toute la spécificité de comment ça se passe. L'inscription d'un utilisateur, bah, va être spécifique d'un site à l'autre parce que tu as différentes contraintes ou tu as différentes choses. Et puis, bah, c'est un enchevêtrement de pages. Voilà. Et donc là, on va se concentrer vraiment sur ce qui fait le cœur du produit sur lequel on bosse. Mais les trucs très généraux dont on a besoin à chaque fois, généralement, il y a des gens qui l'ont déjà fait, quoi.
Pour le grand public, ça veut dire que la plupart des sites sur lesquels on navigue sont tous conçus de base avec des outils qui sont partagés par tous les développeurs du monde, en fait.
Alors, t'as des outils qui sont entre guillemets concurrents, c'est soit l'un soit l'autre, mais oui, par contre, des fois, ça arrive que t'aies un bout de code qui va être utilisé par plein de sites dans le monde qui a un bug, genre hyper important. Et là, d'un seul coup, c'est une catastrophe parce que tu vas avoir peut-être 90% des sites ou des apps ou des systèmes informatiques qui vont être atteints du bug parce qu'ils ont tous implémenté ce truc-là. Et donc là, il faut que tout le monde mette une mise à jour très vite. Enfin, des fois, ça peut être très compliqué, justement, c'est enchevêtrement de dépendance.
C'est là qu'on est presque dans le travail d'horloger dont tu parlais, en fait. Ouais. Tu prends des pièces qu'on t'envoie, ton ressort, ta mécanique, et tu mets tout pour que ça fonctionne à ta sauce.
Ouais, tu as les pièces que tu prends d'ailleurs et que tu dois adapter. Mmh. Des pièces que tu fabriques ex nihilo, ça arrive aussi quand même. Et puis bah après, tu t'assembles tout ça, et puis si ça marche bien, c'est cool.
Ça par contre, ça peut être aussi. Si, parce que quand t'es en tâche, pas quand t'es dans là, mais quand t'es en tâche de fond.
Et après, ce qui se passe, c'est quand on dev, en fait, on peut pas bosser sur la même base de code tous ensemble parce qu'on fait plein de changements en même temps et ce serait impossible à gérer. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est comme si. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la versioning. Okay. La plupart utilisent un truc qui s'appelle Git, qui est une techno de versioning. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que on a une version du code sur laquelle on va on va cloner une version pour avoir notre propre version, on va faire nos changements. Et après, on va proposer que les changements qu'on fasse, on les raccorde au truc principal. En fait, c'est un peu comme si tu avais deux garagistes qui devaient bosser sur une voiture. Et au lieu de bosser tous les deux sur la voiture, ils vont cloner la voiture. Ils vont chacun changer le truc. Donc, tu en as un qui va bosser sur le moteur, l'autre qui va bosser sur le pare-choc. Et puis, au moment où on veut remettre la voiture dans le plomb, ils vont refusionner la voiture avec chacun leur changement qui seront tous pris en compte. Mais du coup, ça va permettre à tout le monde de ne pas se marcher sur les pieds. Et donc, on pourrait potentiellement être des centaines et des centaines à bosser en même temps. On ne bosse pas, on ne se marche pas sur les pieds, on ne s'ennuie pas, quoi.
Et donc, tu touches à la version en ligne que quand tout est validé?
Ouais, en fait, tu n'écris jamais le code de ce qui est en ligne. En fait. Ce qui se passe, c'est que tu écris ta version du code. Tu demandes l'approbation de tes pairs. Une fois que c'est bon et tout le monde est OK, tu vas fusionner ta version du code avec celle qui est en ligne. Et après, tu déploies le code qui est en ligne en prod.
Une extension sur iOS. Sur normalement. Ça peut être très compliqué. Ça, je l'ai pas vu, moi, donc c'est bizarre.
Il y a des moments où tu es dans une sorte de zone, genre tes mains vont vite sur le clavier, tu codes comme ça vient.
Ça arrive hyper souvent. Ça arrive à tout le monde. Où il y a le moment où tu fais totalement abstraction de ce qui se passe. C'est-à-dire que tu fais abstraction de la manière dont tu tapes avec ton clavier, tu réfléchis pas à ça. il y a des gens qui vont te parler, tu vas pas faire gaffe à ça. Et ouais, c'est ce qu'on appelle la zone. Et c'est ce moment-là. Ces moments-là sont assez jouissifs parce que tu vois pas le temps passer. T'es vraiment concentré. Et en fait, tu fais vraiment un peu. C'est un peu cliché, mais tu fais qu'un avec la machine, quoi. Et c'est un plaisir très particulier qui est assez difficile à décrire, mais qui est assez unique. Où c'est des moments où à la fin d'une journée, t'es peut-être exténué, mais par contre, t'as hyper bien bossé. Tu sais. Et généralement, c'est le meilleur moment, quoi.
Parce qu'en plus, c'est en parlant un autre langage.
Ouais.
Donc, t'es transporté, quoi.
Oui, c'est le moment où, en fait, tu réfléchis plus à ce que tu fais, tu le fais, en fait. Tu vas plus te dire, OK, moi, je veux, tu vas verbaliser ce que je veux faire, et puis après, tu vas réfléchir à comment tu écris dans le code ta volonté. En fait, c'est ces moments-là de zone où tu fais qu'un avec le truc et tu sais déjà ce que tu vas faire et tu réfléchis déjà comme tu dois écrire le code et t'as pas besoin de, enfin, voilà, quoi, t'es en symbiose.
À l'inverse, il y a des moments où t'as envie de fixer autre chose qu'un écran.
Oui, ouais, bien sûr. Ouais, il y a de plus en plus, il y a une tendance aussi de certaines personnes qui est de coder quand ils ont le mood, en fait. Il y a des moments où, en fait, c'est des métiers qui sont assez intellectuels, non pas que voilà, ça demande, il faut être des génies et tout le monde est des génies. J'ai pas la prétention d'en être un, mais c'est où, en fait, c'est principalement ta plus-value, c'est des capacités cognitives, c'est ta capacité à imaginer que des instructions. Et donc, du coup, bah, il faut quand même avoir le cerveau dans certaines dispositions. Et des fois, bah, t'es fatigué, t'es en tension, il y a d'autres choses qui font que, bah, t'as du mal à bosser. Et donc, il faut aussi s'adapter. Il y en a certains qui préfèrent se dire, bah, OK, quand je sais que j'ai l'humeur et que j'ai la forme pour pouvoir coder, je code. Et sinon, je fais autre chose. Après, la plupart des boîtes font quand même, bah, des horaires assez classiques, où là, tu suis les horaires. Et donc, ouais, il y a des moments où tu galères un peu plus parce que tu arrives pas, t'es fatigué. Moi, ça m'arrive très souvent de dire, OK, un soir, je vais bloquer sur un problème. Et je vais dire, bon, bah, c'est pas grave, je m'en vais, je gérerai ça demain matin. Et là où le soir, j'y ai passé 2 heures et j'ai pas trouvé la solution, le matin, en 10 minutes, c'est trouvé, quoi. Ça arrive très souvent.
Tu es dans un domaine en constante évolution. Est-ce que tu dois te former, en fait, en continu?
Oui. Ouais, c'est une des grosses contraintes de ce métier, c'est que ça demande, c'est pour ça qu'on a tendance à, beaucoup d'entreprises ont tendance à trouver des gens qui sont passionnés et que le côté investi dans le métier est hyper valorisé. C'est que les technos changent souvent. Que ce soit les technos que tu utilises vont être mises à jour très régulièrement, ou alors à un moment donné, tu as d'autres technos que tu connais pas du tout qui vont supplanter celles-là et qui vont s'imposer d'elles-mêmes. Et donc, du coup, tu es toujours obligé de te former. Alors, tu peux toujours te former sur le tas pendant que tu bosses sur les projets, mais tu es aussi obligé de bosser sur le côté pour, de faire de la veille technique sur le côté. Donc, ça passe par Twitter, ça passe par lire des blogs, ça passe par tester sur des projets perso, regarder des conférences, mais c'est un effort qui est constant.
Tu fais encore des choses que tu as apprises pendant tes études, du coup ?
Oui, sur des bases, mais en fait, c'est des choses qui sont abstraites, on va dire, maintenant. C'est-à-dire que la manière dont je codais au tout début de ma carrière, bah maintenant, je code plus comme ça, mais j'ai des choses qui vont le faire pour moi, en fait. Où je vais coder des trucs qui vont coder comme moi je faisais à l'époque. Et en fait, tu vas avoir toujours... et c'est là où le code devient de plus en plus complexe, c'est que tu as de plus en plus de niveaux d'abstraction. Et en fait, le truc, entre la différence entre le code qui est interprété par les navigateurs, par exemple, et le code que tu écris toi, bah maintenant, tu as plein de couches qui sont par-dessus et qui vont, entre guillemets, te simplifier la vie, mais qui vont aussi la complexifier dans la mesure où c'est moins immédiat, quoi. Tu fais moins le rapport entre toi, ce que tu écris et ce qui est interprété.
Il faut être vif d'esprit, il faut être frais, il faut se former en permanence. C'est l'instant bon et mauvais chasseur. C'est quoi un bon dev? Toi qui dois en recruter maintenant.
Ouais, là, c'est une question qui est hyper intéressante parce que j'ai beaucoup réfléchi. C'est que on a tendance à penser le dev juste sur le prisme de la technique. Or, en fait, tu demandes pas à un dev d'écrire du code. Il n'y a pas un dev en France qui est juste recruté pour écrire du code. Le code qu'il écrit, il a une fonction qui est derrière. Et donc, pour moi, un bon dev, c'est la conjonction de deux choses. C'est quelqu'un qui doit techniquement être bon, évidemment. Mais aussi quelqu'un qui doit comprendre pourquoi on le recrute et qui doit avoir une vision produit. Une vision produit, c'est-à-dire, bah, OK, le code que j'écris, il a une fonction, il a une fonctionnalité, et d'avoir un bon instinct, d'être capable de bien anticiper les besoins des utilisateurs, de mettre le curseur là où il faut, t'as toujours un peu des dilemmes entre une solution A ou une solution B, bah, être capable de bien arbitrer la bonne solution qui va être la meilleure pour l'utilisateur. Donc cette vision très produit, très usage est hyper importante à mes yeux.
Soyons un peu plus légers, Loïc. Tu as un métier un peu flou techniquement, on essaye de l'éclaircir, mais il génère un imaginaire très, très vaste. C'est peut-être une facilité, justement, parce qu'il n'est peut-être pas très accessible techniquement. On préfère se concentrer sur les clichés. Je vais te soumettre quelques clichés de développeurs que j'ai notamment trouvé d'ailleurs sur Internet et sur des sites de top, etc. Je crois que c'était Topito, mais je ne suis même pas sûr. Clichés de développeurs, et tu me dis si c'est vrai ou pas. Les devs sont tous des geeks asociaux qui aiment les jeux vidéo, Star Wars, Kaamelott et Le Seigneur des Anneaux.
Presque. on va pas se mentir, il y a quand même... il y a beaucoup de geeks parmi les devs.
Alors, je permets de dire qu'on se connaît avant.
Oui.
Et tu aimes Star Wars, Kaamelott et Le Seigneur des Anneaux.
Oui, alors moi, t'es mal tombé, je suis vraiment dans le cliché du dev.
Voilà, t'as les quatre.
Ouais, moi j'ai le bonus. Mais il y a pas que ça. Il y en a aussi qui... en fait, c'est vrai que c'était plus le cas avant et maintenant ça se démocratise un petit peu plus. Donc y en a aussi qui sont pas du tout des geeks. Ça arrive. C'est rare, mais ça arrive.
Les devs sont tous des mecs.
Malheureusement, en grande majorité, oui. Moi, justement, au niveau du recrutement, j'essaye vraiment beaucoup d'être inclusif et d'avoir une équipe qui est plus diverse, que ce soit en genre, mais aussi en couleur de peau, par exemple, en ethnie ou en sexualité. Et c'est vrai qu'une grande majorité des devs, et dans une proportion qui n'est pas du tout représentative de la population, ça va être des hommes blancs autour de la trentaine.
Les devs sont des génies informatiques qui sont évidemment aussi des hackers.
Non, non, c'est pas le cas de tout le monde. Moi, par exemple, je pense très bien faire mon taf, c'est-à-dire faire des sites internet, mais ça s'arrête là. Je suis incapable de hacker une autre machine, c'est pas du tout mon domaine. Cela dit, on a cette capacité à pouvoir l'apprendre, c'est-à-dire qu'on est quand même à l'aise avec l'outil informatique. On sait, on serait capable de trouver des sources, mais tout le monde n'est pas capable de le faire et tout le monde n'est pas intéressé par ça.
Il y en a. Tu saurais estimer d'ailleurs, tiens, combien il y en a qui, dans la communauté des devs, sont aussi hackers ou peuvent hacker. Je ne sais même pas d'ailleurs ce qu'on veut dire par hacker.
Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que le terme hacker, en fait, il a une signification très le pirate avec sa capuche dans le noir qui va s'introduire sur des...
J'aurais dû demander ça plus directement. Combien de tes collègues ont déjà infiltré la DGSI informatiquement
Non, mais je pense que ça, c'est une proportion qui est très, très... Peut-être qu'on le saura un jour, peut-être qu'il y a quelqu'un qui sera embarqué, mais je pense qu'il n'y a personne chez moi. Mais je pense que c'est vraiment une infime partie, en fait. Faut pas oublier que c'est déjà des gens qui passent leur journée à coder. Donc, le soir, ils vont pas non plus coder des trucs en plus illégal. Enfin, ça reste, même si, faut pas oublier que la limite entre le légal et l'illégal est quand même largement compréhensible.
Les devs sont ceux qui doivent réparer les imprimantes et les téléphones hors pas de Noël.
Alors. C'est quelque chose où souvent on me demande et souvent je dis mais en fait j'en sais rien. Mais c'est vrai que je suis j'ai tendance dans ma famille à être l'assistant pour Windows et Mac et et internet il marche pas, comment je fais? Et c'est pas toujours facile de faire comprendre que je sais pas plus que tout le monde. Peut-être que j'ai une appétence, mais c'est pas lié à mon métier.
Il y a des développeurs qui en fait viennent et sont pas passionnés par l'informatique, c'est-à-dire qu'ils savent coder. Tu leur mets la machine, ils savent coder, mais en fait, ils ne savent pas forcément comment la machine marche en elle-même.
Oui, il y en a beaucoup, ouais. À un moment donné, quand tu as évolué dans ta carrière, tu es obligé de comprendre un minimum comment ça marche. Après, la machine, l'ordinateur, pas tant que ça. Ça dépend le métier. Moi je fais du web, donc j'ai surtout besoin de savoir comment Internet, ça fonctionne. Mais un ordinateur, pas tant que ça. Après, tu as aussi cette curiosité et il y a certains trucs que tu es obligé de savoir. À un moment donné, si tu peux avoir des sites Internet qui détruisent les ordinateurs. T'es obligé de savoir à un moment donné que, en fait, ton code, là, il va détruire ton processeur ou ta RAM, elle est remplie. Donc, t'as des bases, mais t'es pas obligé de savoir monter un PC et puis de comprendre tous les composants.
C'est ça, c'est pas corrélé. T'es pas obligé d'adorer l'informatique pour être développeur.
Il faut vraiment différencier le matériel du logiciel. Nous, ici, on est des software engineers. Donc, on s'occupe de la partie écrire du code et le logiciel. Le matériel, c'est un autre travail. Ou c'est autre chose, quoi. Et c'est comme dans une maison, t'as des plombiers et puis t'as des électriciens qui bossent sur la maison. Et c'est pas le même taf. Ils bossent dans une maison, mais l'électricien, c'est pas forcément faire la plomberie, inversement.
Est-ce que tu penses que tous ces clichés existent justement parce que le boulot est un peu flou, un peu dur, et du coup, on préfère se reposer là-dessus, quoi?
Il y a plusieurs choses, évidemment. La culture populaire participe vachement à ces clichés-là. Mais l'autre chose, c'est que en fait, les systèmes informatiques se sont complexifiés énormément à travers le temps. Et là où il y a 30 ans, dans les boîtes un peu tech, t'avais pas beaucoup de personnes et ils pouvaient un peu tout faire. Comme ça s'est énormément complexifié, bah t'es obligé de séparer les boulots et que tout le monde ne sache pas tout faire. Donc je pense que ça joue aussi là-dessus. Je suis à peu près sûr que dans un service informatique, dans une grande entreprise, il y a 30 ans, bah il y avait peut-être un gars pour 1000 personnes et il était capable de tout faire. Maintenant, le ratio, il sera beaucoup plus en faveur du nombre de services informatiques et ils vont tous leur spécialité.
Tu parlais de culture populaire juste avant.
Ouais.
Quand tu regardes une série, est-ce que tu regardes ce qui se passe à l'écran? Est-ce que ça t'intrigue et est-ce que c'est vrai souvent?
Ouais, ça c'est... Les devs aiment bien jouer à ce jeu-là. Très souvent, le code est totalement bidon. Ou alors, non pas le code est bidon, mais en fait, c'est pas le bon langage par rapport à ce qu'ils sont censés faire. Donc, tu vas avoir quelqu'un qui va hacker un ordinateur avec de l'HTML ou du CSS. Le CSS, c'est du visuel, donc ça n'a rien à voir. Et on a remarqué depuis quelques années que certaines séries, par exemple Mr. Robot, là, ils ont embauché des consultants informatiques pour que le code qui soit écrit dans la série soit cohérent et que ce soit des vraies commandes et que ça ait l'air réaliste. Mais c'est vrai que c'est un jeu que les devs aiment beaucoup faire, de se moquer de ça.
Mr. Robot, est-ce que tu en as d'autres qui sont réalistes pour nos auditeurs qui voudraient...
Là, j'en vois pas d'autres. J'ai vraiment cet exemple-là. Mais tous les James Bond Mission Impossible, généralement, au moins peut-être les derniers, je sais pas, j'ai pas vérifié, mais d'une manière générale, tous ces trucs d'espionnage où on les voit coder.
Là, c'est nawak.
Ouais, c'est n'importe quoi.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas une énorme barre de chargement qui se met
non.
à l'écran.
Non, généralement, il peut y avoir des chargements, mais généralement aussi, leurs interfaces où ils codent sont très très jolies par rapport à ce qu'on utilise nous.
Pour avoir vu, en effet, tu as un écran noir avec du code en blanc dessus.
Oui.
Donc, il y a rarement une jolie barre avec marqué « Missile loading non. 90% ».
Non, la chose qu'on a beaucoup, c'est de la colorisation syntaxique. C'est-à-dire que des mots vont être mis d'une couleur ou d'une autre. En fait, ça nous permet de différencier un petit peu le code entre ce qu'on a écrit et ce qui est de l'ordre du langage. Enfin, voilà, quoi. Mais ça s'arrête à là, quoi. On n'a pas un truc tout l'écran qui est très beau... avec attention, danger, voilà, non, on n'a pas ça.
Avec des alertes,
non.
Avec la Terre va exploser dans 3, 2, 1, des décomptes et tout ça. Il n'y a pas. C'est dommage, c'est un mythe qui se...
Première étape, identifier la cible et ses failles. Il y a toujours des failles. J'ai appris ça très tôt. Mon premier piratage, c'était la bibliothèque du coin. Un serveur FTP vulnérable sur AS400, bien loin de la faille Zero Day du système Android qui me permet aujourd'hui d'infiltrer le smartphone standard d'un agent du FBI. La bibliothèque était un test pour voir si je pouvais entrer dans le système. Depuis, je vise plus haut. Par exemple, deuxième étape, créer un malware et préparer une attaque. Du bout de mes doigts, j'emballe le Zero Day dans du code comme un cadeau de Noël et j'en fais un exploit, l'expression préprogrammée de ma volonté. Ces conneries, c'est ma cam.
Autre sujet, on va s'attaquer un petit peu à tes conditions de travail.
Ouais.
Apparemment, tu fais un métier où les travailleurs ont gagné la lutte des classes. Est-ce que c'est vrai?
Non, c'est vrai que les développeurs, d'une manière générale, sont plutôt bien payés et ont des conditions de travail qui sont plutôt graves. Hein, tu vois, les bureaux qu'on a sont quand même plutôt... On est bien placé, c'est joli, on a des frais à volonté, les horaires, on les gère comme on veut. Enfin, il y a des conditions de travail qui sont bonnes, et surtout le salaire est bon. Et en fait, c'est pas forcément qu'on a eu des luttes sociales et des grosses grèves, c'est pas trop la culture du dev, ça. C'est juste que, il y a de plus en plus de boîtes qui ont besoin de développeurs, et il y a plus de demandes d'offres d'emploi que de demandes. Ce qui fait que, les développeurs, ils en profitent, le marché va dans leur sens, du coup. Et comme c'est la loi de l'offre et la demande, quoi, tout simplement.
Oui, c'est ce que je voulais. C'est là où je voulais en arriver. Vous avez gagné cette lutte des classes par l'offre et la demande,
oui.
En effet. Parce que est-ce que je dis une bêtise si je dis qu'aujourd'hui tu peux quitter ton boulot quand tu veux et en retrouver un autre?
Ouais, moi je suis arrivé chez Jean de Confiance il y a 4 ans. Quand j'ai changé de taf en 2 semaines, entre le premier jour où j'ai commencé à chercher et le moment où j'ai signé ici, il s'est passé 2 semaines. Donc après bon c'est là il y a aussi un coup de bol, mais c'est clair que t'as pas cette épée de Damoclès de dire il faut absolument que je reste dans cette boîte parce que je suis pas sûr de trouver un autre travail. Il y a aussi ce côté où les gens restent assez peu longtemps dans les boîtes parce que dès qu'il y a le moindre petit truc qui peut les frustrer, ils vont essayer de trouver ailleurs, ou alors si tu veux augmenter de salaire, c'est plus simple des fois de changer de boîte que de que de rester et de demander une augmentation. Donc en moyenne, à peu près, les gens, ils restent à peu près 2 ans, 2 ans et demi dans une boîte. Et après, ils changent. Moi, ça fait 4 ans que je suis ici. Je suis déjà un dinosaure, en fait. Mmh. J'ai déjà vu plein de gens arriver après moi et partir avant moi.
Ce qui vous met en position de force, tu l'as dit, pour les salaires.
Oui, 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 clairement. On a des beaux salaires. Et justement, des fois, même certains devs ont des fois tendance à l'oublier. Avec ma casquette de manager, ça m'arrive de parler salaire. Quand j'entends quelqu'un dire « je suis pas assez bien payé », alors il faut toujours le mettre dans le contexte. Lui, il a bien conscience qu'il est bien payé par rapport à la moyenne des gens. Mais le « je suis pas assez bien payé pour un dev », c'est pas le même que « je suis pas assez bien payé pour n'importe quel pour un métier normal », entre grosses guillemets.
On tourne autour du pot. Ça gagne combien un dev en moyenne ?
À la moyenne, c'est super dur à dire, mais on va dire que on est entre les, allez, les plus bas vont être autour des 30 000 euros bruts annuels. Je saurais pas te faire le calcul comme ça. On va parler surtout brut annuel.
Mais... Bon, on a l'idée déjà 30 000 brut annuels.
Si je peux calculer sinon.
Non, mais vas-y.
Et des devs seniors, donc qui ont plus d'expérience, ça va être 50, 60, 70, 80. Après, là, tu vas rentrer dans des échelles où t'as aussi des gens qui ont des statures nationales voire internationales. Il y a des rockstars hyper connus dans le monde du dev, et t'en as qui vont gagner jusqu'à 300, 400 000 dollars. Par an, quoi.
Il y a des rockstars dans le monde.
Ouais, il y a des. Quand tu dis rockstar, c'est des gens qui ont une célébrité mondiale. Il y a des gens qui, dans leur domaine, sont tellement forts et tellement influents qui sont connus par tout le monde. Quoi.
Je prends une image peut-être un peu bête, mais il y a un Kylian Mbappé d'élèves, par exemple, que des grosses boîtes peuvent s'arracher.
Ça arrive, ouais. Il y a des fois des gros transferts. Ouais. Il y a pas longtemps, il y a eu un gros transfert avec un gars qui bossait chez le New York Times. Et qui était extrêmement connu et qui s'est fait recruter par une autre boîte qui est un peu moins connue, qui est moins parlante que New York Times, mais une grosse boîte tech. Et ouais, ça a été annoncé un peu comme un transfert de foot, c'est-à-dire communiqué de presse, plusieurs tweets, réactions de centaines de milliers de devs à travers le monde, et avec des beaux salaires.
Qu'est-ce qu'il a de différent, ce mec-là ?
Ben, il est très fort, déjà. C'est des gens qui, généralement... ont créé des choses. Ils ont créé un outil ou un langage et qui voilà, sont connus pour ça et qui sont un peu top de la pointe de la technologie.
Tu as parlé du New York Times, on est chez gens de confiance.
Ouais.
Qui emploie les devs aujourd'hui ? C'est aussi, ça me semble très large.
Ouais, aujourd'hui, dès que tu as une présence sur Internet ou sur une app, tu as besoin de devs. Alors des fois, tu vas utiliser des agences qui vont le faire pour toi. Ça, c'est si tu n'as pas besoin de... Si tu as un besoin ponctuel et pas très souvent. Mais après, tu es un site de presse, tu as besoin de dev pour ton site. Tu es une boutique en ligne, tu as besoin de dev pour faire ta boutique en ligne. Nous, c'est des petites annonces. Pour que les gens puissent mettre leurs petites annonces, c'est en ligne. Le restaurant, tu as besoin d'un site pour Deliveroo, ils ont besoin d'un site. Enfin, voilà, en fait, dès que tu as une présence en ligne, à un moment donné, tu as besoin de dev de manière ponctuelle ou de manière permanente, mais un peu tout. Et puis après, ça, c'est tout ce qui est en B2C, donc c'est ce qu'on voit, mais il y a aussi tout ce qui est derrière en B2B. Donc ça, aujourd'hui, il y a des champs d'application où tu as besoin de développeurs et d'ingénieurs qui sont quasi illimités, en fait. Tu pourrais bosser dans n'importe quoi.
C'est pour ça que c'est exponentiel.
Ouais.
Tout le monde a de plus en plus besoin de vous parce que tout le monde va sur le net.
Bah oui, c'est devenu maintenant de plus en plus d'usage. Il suffit de voir comment tu achètes maintenant, comment tu consommes maintenant via Amazon, alors qu'avant, tu consommais dans les magasins. Il faut, là où avant il y avait des gens qui construisaient les magasins, maintenant il faut des gens pour faire les plateformes qui te permettent de construire en ligne, enfin de consommer en ligne, quoi.
Donc le bon côté de la chose, c'est que vous êtes visiblement pas prêt d'être en position de faiblesse.
Il y a toujours un espèce de marronnier où il y a l'intelligence artificielle qui viendrait remplacer le dev et le code. Pour le moment, il n'y a pas de champ d'application très impressionnant. Il y a des exemples très impressionnants. Tu vas dessiner sur une feuille un site. Et tu vas avoir une IA qui va prendre une photo, va capturer la photo et être capable d'écrire le code derrière ça. Ou alors, pareil, il y a une différence où tu vas écrire du texte, où tu vas dire « je voudrais un site de vente en ligne de chaussettes ». Et il va automatiquement, sur la base de ce que tu as écrit, faire ça. Alors, cet exemple-là, il est un peu rigolo parce qu'en fait, tu écris du code, c'est juste que le code, c'est du français. C'est plus un langage technique, mais c'est une autre abstraction d'instruction. Donc, il y a ces exemples-là, mais... faut voir dans combien de temps ça arrivera.
Pour l'instant, c'est de la belle théorie, quoi.
Oui, et puis de toute manière, comme tous les métiers sont amenés à évoluer, donc à un moment donné, peut-être que notre travail, ça sera de bosser avec des IA comme ça. Il y a déjà des outils en fait qui existent, quelque chose qui s'appelle Copilot, où en fait, t'es avec une IA qui va être constamment avec toi pendant que t'écris ton code et il va te suggérer des trucs en plus. Et en fait, il va commencer à reconnaître ce que tu veux faire. quand tu vas commencer à coder, il va reconnaître et il va te proposer la suite sans que tu aies besoin de le taper. Donc il y a déjà des exemples comme ça. Mais il n'y a pas encore de grand plan social de développeurs. C'est pas encore le cas.
La formation suit. Il y a assez de développeurs qui sortent des écoles.
Non. Non, c'est vraiment c'est le nerf de la guerre. Et c'est vraiment pour ça que les développeurs sont bien payés. C'est que je vois que les formations, il y en a de plus en plus quand même. Mais ce n'est pas suffisant par rapport à la demande. Il y a un vrai déficit d'image par rapport aux devs. On ne se rend pas compte de ce que c'est vraiment comme métier. C'est assez difficile de se représenter. Moi, quand j'étais au lycée, on m'avait dit que ça pouvait être pas mal comme métier. Et en fait, moi, au début, je m'étais dit non, ça va pas me plaire. Et c'est plus tard, on me l'a proposé et je me suis rendu compte que ça n'avait plus. Mais c'est parce que j'avais une image faussée du truc. Et c'est vrai que les lycées, tu vois, commencent à apprendre des bouts de code à des lycéens. Pas tous le font. Et je pense que c'est hyper important d'aller dans ce sens-là parce que nous, ça va nous permettre dans l'industrie d'avoir de plus en plus de gens qui vont découvrir ça et qui vont vouloir en faire un métier. Et puis aussi, c'est important parce que on est dans un monde qui est cerné par... on parle tout le temps d'algorithmes, de IA, tout ça comme ça. Et c'est important juste en tant que citoyen de comprendre ce que c'est de cette technique-là qui gravite autour de nous tous les jours et qui deviennent des questions de société, quoi. Donc là, c'est le début de notre formulaire de créa d'annonce.
D'accord.
Donc là où les gens passent par là pour créer une annonce sur le site. En fait, là, je le fais tourner en local. Donc comme tu peux voir, il y a marqué localhost, donc le host local. Et en fait, c'est exactement la même version, à 2-3 détails près, parce qu'il y a des outils de dev qui sont en plus. Mais c'est exactement la même version que ce que les utilisateurs voient. Et en fait, constamment, c'est un jeu entre j'écris du code et je vérifie que ça se passe bien comme je veux dans ma version locale du site. Parce que, en fait, je pense que personne n'est capable de juste en écrivant le code et se dire ok, c'est bon, tu as toujours besoin de tester parce qu'en fait, le job d'un dev, c'est pas d'écrire du code, ça reste de faire quelque chose qui est fonctionnel et qui répond à une problématique d'un utilisateur. Et donc, du coup, même si moi, la plupart du temps, quand j'écris du code, au bout d'un moment, avec l'expérience, tu sais ce que ça va faire et tu as assez peu de doutes que ça va marcher ou pas, mais tu as toujours besoin de vérifier parce qu'on sait jamais. Ouais. Tu peux toujours avoir fait une étourderie ou alors un petit détail que tu n'avais pas pensé et qui fait que ça marche pas si bien. Et puis, le truc, c'est que tu as toujours besoin d'expérimenter le produit, quoi. Ouais. Parce que ton job, c'est de faire ça. Moi, j'aime bien faire la comparaison. C'est comme un boulanger. Tu lui demandes pas de mélanger de la farine. Tu lui demandes de faire du pain. Mmh. C'est pareil, en fait. Nous, notre job, c'est pas de faire du code. C'est de faire un site, quoi. C'est faire un site qui est fonctionnel et qui marche bien.
En freelance, j'ai vu passer des 500 euros facturés à la journée.
Ouais.
Y a le côté extrêmement rare et qualifié, on est d'accord. Mais est-ce que tu comprends que, du coup, pour le client qui fait appel à vous, vous soyez un peu parfois le plombier ou le garagiste du 21e siècle? C'est-à-dire qu'on a l'impression que ça coûte cher, on ne sait pas franchement ce qu'il fait. Et parce que c'est vrai que pour le commun des mortels, 500 euros la journée, ça peut paraître délirant.
Oui. Oui, les freelances, ouais, c'est autour de entre 400 et 600 en moyenne à peu près. Mmh.
Tu vois ce que je veux dire, le côté faut que je fasse venir un serrurier, il va me prendre très très cher, je sais pas du tout faire ce qu'il sait faire, même le garagiste qui me dit qu'il doit faire tomber la courroie ou je sais pas quoi, mais il faut que je le fasse venir, alors du coup je vais payer cher.
Non, c'est un sentiment qui est tout à fait légitime, surtout qu'en plus c'est pas toujours extrêmement simple de vulgariser la technique, et en plus au-delà de ça, des fois en fait genre si tu embauches quelqu'un juste pour te dépanner, peut-être que cette personne-là, elle va pas non plus être experte là-dedans, donc elle va prendre plus de temps et tout. Donc oui, c'est clair qu'il y a un côté comme ça, c'est tout à fait légitime de penser ça.
Ou à l'inverse, tu peux avoir l'impression que le mec, ça lui prend pas longtemps et tu te dis, oh, j'ai payé super cher, ça a l'air facile pour lui.
Oui, en fait, le truc, c'est comme dans tous les métiers, tu vois. C'est qu'il y a des trucs qui paraissent faciles pour toi, qui sont hyper durs pour moi, parce que t'as l'habitude de le faire et t'es formé, et c'est ton job, et c'est pareil dans l'inverse. C'est juste que c'est plus manifeste, parce que là, c'est un métier qui est dit technique. Donc, la notion technique de connaissance est hyper importante, mais c'est le cas pour tous les métiers, tout simplement. Où à chaque fois, mon père, il est commercial. Pour lui, c'est juste parler à des gens. Pour moi, c'est hyper dur, tu vois, de faire une négo, quoi.
Si un auditeur te dit qu'il veut devenir développeur, quel conseil tu lui donnes?
Le premier conseil, c'est de tester avant de s'engager dans des écoles ou de vraiment de se mettre dans un cursus. C'est de prendre son ordinateur et de chercher des tutos sur Internet. Il y en a plein qui sont gratuits, qui sont hyper faciles d'accès, qui sont assez satisfaisants parce que dès le début, tu vas être capable d'avoir des petits résultats sympas. Et ça va te permettre de comprendre un peu la mécanique de ce que c'est, l'expérience que c'est que d'écrire du code, d'être confronté à ça et de voir si ça te plaît ou pas. Je pense que c'est déjà le premier conseil parce que la plupart des écoles coûtent super cher. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai pu faire un BTS en contrat pro. L'avantage de ce truc-là, c'est que du coup, j'ai pas payé l'école. Le désavantage, c'est que tu pars quand même un peu avec une pénalité parce que par rapport à un ingénieur qui est en 5 ans, tu as du taf à rattraper. Mais l'avantage du dev, c'est que tu as plein de ressources sur Internet. C'est un métier où il y a assez peu de secrets parce que toutes les connaissances sont partagées gratuitement sur Internet. Donc, ça ne veut pas dire que les écoles d'ingé ne sont pas utiles et que c'est de l'arnaque. Ça veut simplement dire que si, avant de s'engager à mettre 5000 euros par an, il y a déjà moyen de tester. Quoi.
Tester alors.
Ouais, je pense que c'est le plus simple. Juste d'essayer, si ça te plaît, vas-y, après, engage-toi dedans. Mais déjà, c'est déjà pas mal. Ouais. Et puis, la satisfaction, déjà avoir un petit truc à montrer à ses potes, à sa famille, c'est cool.
Tu te rappelles, toi, du premier truc que tu as codé?
Ouais, c'était il y a super longtemps. J'avais 16 ans. Donc, c'est maintenant, il y a Mathusalem. J'avais codé avec un ami.
Tu dis, c'était Mathusalem, t'es pas si vieux que ça.
C'était il y a 16 ans.
Mais
j'avais codé avec un copain le site de l'équipe de basket, de mon club de basket. Et donc, on s'était mis à deux. Et on avait suivi un tuto en ligne gratuit pour le faire. Et donc, c'était super cool parce que on découvrait ça. On s'amusait un peu à la base, on faisait ça pour la blague. Puis en fait, ça a été vraiment utile parce que l'équipe de basket, elle était hyper contente, le club était hyper content d'avoir un site. Et c'est vrai que j'ai fait ça. Puis après, j'ai abandonné un peu. J'étais parti dans un autre cursus qui n'avait rien à voir. Et puis c'est ma femme qui un jour m'a dit, moi, je te verrais bien faire du dev. Et puis j'ai essayé. Et puis là, j'ai été hooked, comme on dit.
C'est vrai qu'on parle beaucoup d'abstrait, j'ai l'impression, depuis le début de l'interview, alors qu'en fait, c'est le concret qui t'apporte de la joie à la fin. C'est le résultat.
Alors, il y a un peu les deux. Des fois, le côté écrire le code et sentir que tu fais un truc qui marche bien, et c'est agréable. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un peu une fierté. Le produit final est aussi assez cool, quoi. Quand tu as un truc qui marche bien et qu'il rend service à des gens, tu vois, on a tendance à oublier, mais par exemple, Agent de confiance, c'est quand même 500 000 personnes tous les mois qui l'utilisent. Donc, c'est aussi, tu te dis, c'est impressionnant, et puis tu te dis, qui l'utilisent tous les jours, qui apprécient ton travail, ça leur est utile. C'est aussi une satisfaction, évidemment.
Merci beaucoup, Loïc.
Je t'en prie.
Vous venez d'écouter Occupation, un podcast TDA Média tourné et monté par moi-même, Alain Mattei. Vous nous retrouvez sur tous les réseaux sociaux avec les comptes @OccupationPod, tout attaché, et Occupation au pluriel. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau reportage.